これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le Gai Savoir.
Une émission de Raphaël Antoren avec Paola Reymann.
À la réalisation, François Connac.
Et à la lecture aujourd'hui, Georges Kless. Dans le livre du rire, à l'intérieur de l'examen des conditions du rire, Bergson insère quelques pages sur l'objet de l'art, où il résume la quasi-totalité de son œuvre passée et à venir. Nous ne voyons pas les choses mêmes, nous nous bornons le plus souvent, dit-il, à lire des étiquettes collées sur elles. Qu'est-ce à dire ? Que les hommes au quotidien banalisent l'existence, qu'ils appréhendent les choses sous l'angle unique des besoins qu'elles comblent ou qu'elles déçoivent, qu'ils effacent les différences inutiles et détournent le regard, chaque fois que c'est nécessaire, de ce qui est singulier au profit de ce qui est général, c'est-à-dire explicable, mais incompréhensible. Or, l'espoir est permis. Le détachement n'est pas si loin du quotidien. Jugez plutôt.
Quel est l'objet de l'art ? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
La voix de Bergson qu'on a entendu lire son texte.
C'est bouleversant, hein.
Qu'est-ce qu'elle a l'air chevrotante et malade.
Il est vieux, on est en 36 je crois. Pendant cet enregistrement, Bergson est mort en 41. Pour l'anecdote, on l'a déjà dit, mais il faut le redire hein, pour nos auditeurs. L'une des particularités de Bergson, c'est qu'il est mort en 41, il est né en 59. Donc il est né en 1859, mort en 41, donc c'est à part égale l'homme de deux siècles, de 41 ans, mort à 82 ans. Donc. Et cette symétrie inattendue, imprévisible par définition, se redouble du fait qu'il a écrit deux livres. Il a écrit quatre livres, deux au 19e, deux au 20e siècle, et qu'au milieu... il publie le livre du rire, au milieu duquel se trouvent ces pages, les pages que nous allons commenter aujourd'hui sur l'objet de l'art, qui rappelle tout ce qu'il a dit et annonce tout ce qu'il va dire. Bergson étant le philosophe d'une seule intuition, d'une seule idée, il n'a aucun mal à concentrer la totalité de son savoir ou la totalité de ses intuitions dans quelques lignes ou quelques pages qu'il ne fait ensuite que dilater dans son œuvre. Mais c'est assez frappant, cette structure géométrique de son œuvre. Et la voix de Bergson, oui, moi, ça m'émeut parce que c'est un peu comme si on serrait la main de Platon, si vous voulez. Bergson, Platon, Nietzsche, tous ces philosophes sont hors du temps. Oh, ils sont tributaires de leur époque, mais de façon secondaire, en réalité. On ne fait pas de l'histoire ici, on fait de la philo. Et quand on fait de la philo, on met Bergson et Platon sur le même tapis et puis on voit ce que ça donne, on voit ce que cet affrontement ou cette rencontre produit. Ils sont sur le même plan. Or, Bergson, on a sa voix. Et que cet homme, dont la réputation, dont la gloire, dont les textes, lui valent d'être mythique, d'être une sorte de titan, d'être un symbole, de ne pas du tout s'appartenir, d'être bien plus large que la petite existence du bon bourgeois de la Troisième République qu'il était, cet homme-là... On entend sa voix.
Et on voit d'ailleurs, je m'excuse, je
vous en prie, je vous en prie.
On voit d'ailleurs quel espoir les écrivains, les poètes de l'époque contemporaine à Bergson mettaient dans le phonographe, dans tout ce qui permettait d'enregistrer la voix, comme Apollinaire qui enregistrait ses poèmes.
Bien sûr, et on trouve ça aussi dans La Nausée. La Nausée raconte l'émotion esthétique qu'on éprouve devant un morceau de musique. C'est une des modalités de l'irruption de la modernité, hein, bien sûr. Mais c'est aussi... il y a aussi quelque chose de presque contre-nature, au fond, pour le fétichiste ou l'idolâtre, que tout philosophe est un peu l'idolâtre de ses auteurs. Il y a quelque chose de stupéfiant là-dedans. C'est plus fort qu'un autographe de Platini, si vous voulez. C'est plus fort qu'une poignée de main de Pelé. C'est plus fort que... Je ne vois de comparaison que dans la rencontre avec des footballeurs, en vérité.
Et en même temps, je tendrais à dire... qu'il y a quelque chose avant de rentrer dans la lettre du texte, hein. Une expérience presque une pointe de déception à chaque fois qu'on a l'occasion d'entendre la voix d'un écrivain qu'on admire. Et je reviens encore, expérience commune, hein, à entendre par exemple Apollinaire lire Le Pont Mirabeau avec cette sorte de monotonie, qui peut être décevante et qui peut être...
Ils ne sont qu'eux-mêmes.
Où le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont le demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent les éternels regards longs de silence. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain.
En enregistrant leur propre voix, ils s'exposent à être réduits à eux-mêmes, c'est-à-dire ils s'exposent à donner à leur texte la ténuité d'une interprétation, fût-ce la leur. Enfin, ça reste une interprétation. Le propre d'un philosophe, qu'est-ce que c'est qu'un philosophe ? C'est quelqu'un, ou un artiste, c'est quelqu'un dont la vie, dont la petite, toute petite existence aussi petite que la nôtre, est l'écrin de quelque chose qui ne meurt pas complètement avec eux. Or, en s'enregistrant eux-mêmes, alors c'est bouleversant parce qu'on touche du doigt quelque chose de pérenne, mais en réalité, ce n'est pas la chose pérenne qu'on touche du doigt. C'est l'occasion charnelle, incarnée, sensible, mortelle, faillible. Camus n'était pas un très bon lecteur, Bergson non plus d'ailleurs, Apollinaire encore moins, René Char non plus. Enfin, je veux dire, ce ne sont pas de très grands lecteurs, mais ce sont des gens qui, en s'enregistrant eux-mêmes, prennent le risque, en un sens, d'être réduits à eux-mêmes, alors qu'ils sont infiniment plus larges qu'eux-mêmes. Donc oui, il y a de la déception. Il faut faire droit au fétichisme qu'on porte en nous, à cette passion qu'on peut avoir, par exemple, pour les autographes des philosophes, ou des choses comme ça, choses absurdes, et à la déception qui l'accompagne, c'est-à-dire au sentiment qu'un philosophe rendu à sa condition de simple mortel n'est que lui-même, c'est-à-dire pas grand-chose.
Alors, venons-en à la lettre du texte. Mmh. Vous avez dit que Bergson était l'homme d'une intuition. En tout cas, il y a des mots dès les premières lignes de ce texte qui renvoient à un vocabulaire bergsonien assez connu. Par exemple, lorsqu'il dit « en communication immédiate », la pensée de l'immédiat, dans la pensée bergsonienne, c'est quelque chose qui revient très souvent.
Bergson, Henri Bergson, est, comme Jean Kelevitch d'ailleurs a su le montrer ensuite en expliquant ses textes, avant toute chose, Henri Bergson est un philosophe de l'immédiat. Attention, non pas un philosophe de l'immédiat au sens où, par exemple, on pourrait dire aujourd'hui, et pour le déplorer d'ailleurs, que nos médias, enfin, dans leur majorité, nos médias sont hantés par l'immédiat. C'est-à-dire qu'on est dans la restitution de l'information, le fait l'emporte sur la réflexion, etc., etc. Triomphe d'Internet. Bref, les médias sont hantés par l'immédiat. Et heureusement qu'il existe, comme France Culture, Arte ou éventuellement Inter, des havres qui nous permettent de prendre un peu de temps, c'est-à-dire de médier cet immédiat dont une foule imaginaire, la foule des auditeurs, serait apparemment avide, alors qu'en réalité, les gens demandent à réfléchir et à se servir de la radio comme d'un outil pédagogique aussi. C'est pas cet immédiat-là auquel il fait référence. L'immédiateté à laquelle Bergson fait référence au début de ce texte et qui fait, en un sens, le cœur de sa démarche, cette immédiateté est à mettre en lien, me semble-t-il, avec deux adverbes dans la phrase en question. Permettez-moi, Paola, pour nos auditeurs, de relire cette première phrase.
Quel est l'objet de l'art ? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature.
Il y a vraiment, dans cette phrase, me semble-t-il, le mot d'immédiat est encadré par deux adverbes qui sont cruciaux, qui sont directement, si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et continuellement, notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Le directement et le continuellement sont les deux caractéristiques de l'immédiateté selon Bergson. Qu'est-ce que ça veut dire directement ? Ça veut dire en l'absence de tout intermédiaire, justement. Hors de tout intermédiaire. Une communication immédiate, c'est une communication directe. Ça veut dire c'est une communication qui n'est pas médiée par la raison, par les préjugés, par la connaissance. C'est ce que Bergson appellera plus tard, dans le texte, une façon virginale de voir, d'entendre et de penser. En fait, c'est le génie ingénu de l'enfance. C'est une aptitude à percevoir ce qui nous est ordinairement masqué par la vie quotidienne, parce que la vie quotidienne a des trouées, des éclaircies, des percées solaires, des moments d'absence qui sont en fait des moments de présence. Il y a des moments où la vie, que Bergson qualifie comme la nécessité d'agir et par conséquent, c'est dans le texte que nous allons étudier, la vie, c'est-à-dire la nécessité d'agir, agir, c'est-à-dire la nécessité de prélever dans le réel en se servant du cerveau comme d'une gare de triage, prélever dans le réel les trucs dont on a besoin aux dépens des trucs dont on n'a pas besoin, à la façon dont un verre d'eau vous intéresse si vous avez soif et ne vous intéresse plus si vous n'avez pas soif. La vie, c'est l'action, est en réalité, enfin, cette définition-là de la vie est une définition restrictive qui, en fait, réduit la vie à une survie, qu'il faut écrire en deux mots, c'est-à-dire une vie en surface. On vit dans l'action. Et du coup, on réduit le réel aux besoins qu'on en a. L'immédiateté, c'est-à-dire une communication avec le monde non médiée par le besoin qu'on en a, est une communication qui nous intéresse, où le monde nous intéresse, séparément donc du besoin qu'on en a. En d'autres termes, les moments où notre nécessité d'agir s'absente de nous, ces moments d'absence, sont des moments de présence au monde, à contrario ou à rebours de tous ceux dont la vie quotidienne en fait ressemble à une amnésie. La vie quotidienne, métro, boulot, dodo, les jours qui se ressemblent.
Enfin, il faut bien vivre aussi.
Oui, bien sûr, il faut bien vivre, et il le dit lui-même. Tiens, voici le texte.
Vivre consiste à agir. Vivre, c'est n'accepter des objets que l'impression utile pour y répondre par des réactions appropriées. Les autres impressions doivent s'obscurcir ou ne nous arriver que confusément. Je regarde et je crois voir, j'écoute et je crois entendre. Je m'étudie et je crois lire dans le fond de mon cœur. Mais ce que je vois et ce que j'entends du monde extérieur, c'est simplement ce que mes sens en extraient pour éclairer ma conduite. Ce que je connais de moi-même, c'est ce qui affleure à la surface, ce qui prend part à l'action. Mes sens et ma conscience ne me livrent donc de la réalité qu'une simplification pratique.
Vous êtes convaincu, Paola, l'enjeu n'est pas ici un enjeu administratif. Ou plutôt si, dans la perspective de Bergson. Oui, vivre consiste à agir, et ben voilà, nos sens extraient dans le monde les choses qui nous aident à agir. Et en cela, nos sens, dictés par nos besoins, orientés par nos besoins, faussement objectifs, si j'ose dire, nos sens ne nous livrent du réel qu'une simplification pratique. Tout le travail de Bergson, c'est de remplacer cette simplification pratique, dictée par la nécessité de vivre, et par le fait que bah, dans la vie, il faut choisir, il faut trier, il faut ordonner les trucs. C'est à l'image de l'ordre qu'on met dans sa chambre, par exemple. On range sa chambre, on la simplifie. Tout le travail de Bergson consiste à substituer à cette simplification la simplicité. La simplicité, qui est faite donc de direct, de contact direct, d'immédiateté, de façon virginale de voir, d'entendre et de penser, et deux, continuité. Parmi les deux adverbes, il y en a un sur lequel je ne suis pas revenu encore dans la première phrase. Notre âme, dit-il, vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Il faut bien comprendre ce que cette continuité signifie chez Bergson, et en fait l'opposer chez lui à l'idée de contiguïté. Pour le dire en termes bergsoniens, très simplement, pour Bergson, vous savez, l'espace, enfin pour Bergson, pas besoin d'être Bergson pour le dire d'ailleurs. L'espace est divisible à l'infini. La distance qui me sépare de vous, alors que nous sommes à la même table dans un studio pourri, dans la maison de, ce qu'on appelle Mangin, c'est-à-dire dans cette espèce de ce qui est devenu aujourd'hui une sorte de dépotoir provisoire, hein, cette espèce de ruine où nous essayons tant bien que mal d'enregistrer une émission, où on nous a lâchement cantonnés. J'en reviens à l'idée de continuité. Et j'oublie Mangin un instant, on va faire comme si on n'était pas là.
La différence entre continuité et contiguïté.
Voilà. Pour Bergson, voilà, l'espace est divisible à l'infini. La distance qui me sépare de vous est divisible à l'infini. Les 45 ou 50 centimètres ou 60 centimètres, ou le mètre qui nous sépare, est divisible à l'infini. Chaque milliardième de ce mètre est lui-même en droit divisible à l'infini. À partir de là, le paradoxe de la flèche qui cherche sa cible, ou bien d'Achille qui course la tortue. La distance qui sépare Achille de la tortue est divisible à l'infini, donc Achille ne rattrape en droit sur le papier, en mathématiques, du point de vue de Bergson, jamais la tortue, de la même façon que la flèche n'atteint jamais la cible qu'elle vise et vers laquelle elle est censée se diriger. Or, ça c'est l'argument des Éléates. C'est l'argument pour dire que le mouvement est une illusion. L'argument de Bergson, c'est de renverser cela en disant « c'est pas le mouvement qui est une illusion, c'est la mathématique qui est inapte à saisir le mouvement ». La mathématique n'étant pas capable de saisir le mouvement, la mathématique prétend illusoirement dire la vérité du monde. Car la vérité du monde, c'est pas la contiguïté, c'est la continuité indécomposable. Qu'est-ce que c'est que la simplicité ? La simplicité, c'est le fait qu'Achille rattrape et dépasse la tortue. C'est le fait que la flèche heurte la cible. C'est le fait que si je tends le bras, je touche votre bras. La continuité, c'est ça. La continuité et la simplicité, c'est cela. Or, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, il y a l'idée que, par exemple, quand on aime, on ne compte pas. Que les sentiments ne sont pas quantifiables. Et c'est là que Bergson diffuse dans son propre système, au fond. Dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, il explique que les sentiments ne sont pas quantifiables, que Achille, en un sens, ne rattrape pas la tortue et qu'en réalité, il la rattrape. Or, ces considérations sont à l'œuvre dans l'emploi de cet adverbe « continuellement », où notre âme doit vibrer continuellement à l'unisson de la nature, parce que cette continuité, c'est le mouvement lui-même, c'est l'évidence du mouvement, c'est ce qu'il faut épouser, c'est ce qu'on épouse quand on surmonte les apparences, quand on refuse la surface, le lieu commun, le préjugé, quand la vérité nous intéresse plus que l'opinion, quand on va au-delà de ce qu'on voit. Bergson, vous savez, Bergson, il est platonicien, dans la mesure où le sensible ne lui suffit pas, mais il est nietzschéen, dans la mesure où au-delà du sensible, ça n'est pas l'absolu qu'il découvre, ou la vérité recouverte par ce sensible, c'est la singularité. C'est la singularité des choses, c'est-à-dire les choses dans leur mobilité, les choses dans ce qu'elles ont d'insaisissable, autrement que par la poésie, que par la grâce. Si Bergson soulève le voile des apparences, ça n'est pas pour découvrir la vérité. S'il surmonte le filtre des usages, ça n'est pas pour découvrir l'absolu. C'est pour mettre au jour le singulier, la démarche parfaitement inédite que forge une silhouette, l'unité paradoxale d'une silhouette mobile, d'une silhouette en mouvement. Il y a derrière ça une idée qui, à mon avis, relève de la grâce et que, pour le coup, on retrouvera dans le dernier livre de Bergson, c'est-à-dire les deux sources de la morale et de la religion.
On va revenir à cette image ambivalente du voile dans ce texte. J'aimerais d'abord qu'on retourne à la seconde phrase, juste après « Quel est l'objet de l'art ?» et faire droit à cette hypothèse, parce qu'on oublie, mais le texte commence donc par une série de « si ». Je la relis une troisième fois, du coup, puisqu'on l'a entendu par Bergson, puis par vous, donc je vais la relire. « Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Oui. » J'aimerais juste imaginer qu'est-ce que ça serait ce monde où nous serions tous artistes. Parce qu'on passe souvent dessus pour dire ben « non, en fait, c'est pas le cas, voilà ». Mais faisons droit à cette hypothèse qui fleurit un instant comme ça au début du texte.
Bergson le décrit lui-même, Paola. Bergson répond de lui-même à la question que vous posez dans le texte qui vient juste après, que Georges Claes va lire tout de suite.
« Nos yeux, aidés de notre mémoire, découperaient dans l'espace et fixeraient dans le temps des tableaux inimitables. Notre regard saisirait au passage, sculpté dans le marbre vivant du corps humain, des fragments de statues aussi beaux que ceux de la statuaire antique. Nous entendrions chanter au fond de nos âmes comme une musique, quelquefois gaie, plus souvent plaintive, toujours originale, la mélodie ininterrompue de notre vie intérieure. »
ça serait quand même une belle... Enfin, c'est une belle fiction, ce monde où on serait tous artistes.
Ouais, ou... c'est une fiction invivable.
Invivable, certes, mais...
C'est une fiction invivable. Vous ne remplacez pas impunément, à tout instant, la vie de tous les jours par la vie de chaque instant. Sinon, votre vie n'est plus que la liturgie d'une surnaturelle révélation esthétique, comme dirait Céline, le bréviaire d'une émotion innommable, ou disons indicible, ou ineffable, mais qui serait un cauchemar, à la façon dont Roquentin, le héros de la nausée, vit un cauchemar quand il voit les choses comme elles sont, c'est-à-dire au lieu de voir une main qui se tend quand quelqu'un lui tend la main, il voit un gros ver blanc, au lieu de voir une langue, il voit une araignée avec des pustules sur le dos, au lieu de voir une banquette, il voit un cadavre retourné. Bref, quand il voit les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire au fond telles qu'elles deviennent dans leur continuité, telles que seule une métaphore permet de les dire, bref, quand il les voit sous un angle littéraire, au fond, quand il les voit de cette façon-là, qu'est-ce qu'il a ? La nausée. La nausée, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre tous les jours comme on vit chaque instant. Voilà. Mais on peut entrevoir ce que signifie le fait de vivre de cette façon-là. Et en l'entrevoyant, en entreapercevant cette possibilité, cette potentialité sublime, se donner les moyens, au fond, à tout instant, quand le cœur nous le dit, ou quand le cœur le chante, à tout instant, de repérer de la beauté ou de la mélodie derrière ce que le quotidien nous présente comme une insondable banalité, un ennui profond et la réitération d'habitudes mortifères. Et au fond, ou en surface, mais une surface cette fois-ci élaborée, plus élaborée, ce que Bergson nous permet de penser, ça n'est pas... une sortie définitive du monde de la quotidienneté à la façon dont l'au-delà serait la résolution des turpitudes que nous sommes appelés à vivre dans son vestibule terrestre. Ça n'est pas cette sortie-là, c'est la constante excursion ou divagation qu'un esprit, ou plutôt un regard, ou plutôt une sensibilité peut faire quand elle choisit de tenir pour inhabituelles ces choses qu'elle a l'habitude de voir. Le résultat, c'est que, c'est l'exemple que prend Bergson, me semble-t-il, dans l'énergie spirituelle, c'est que vous pouvez vous rendre à une réunion, on en a déjà parlé, mais on ne le citera jamais assez cet exemple, vous pouvez vous rendre à une réunion dont vous connaissez la disposition des chaises, la forme de la salle, la forme de la table et le visage des participants, tout en ayant, en arrivant à cette réunion, le sentiment qu'elle a été dessinée comme par une main d'artiste. Car toute réalité, même la plus habituelle, la plus quotidienne, la plus blafarde, et de là la grandeur de ces peintres qui cessent de se donner des modèles nobles pour faire des chefs-d'œuvre, de là le génie d'Elstir, le peintre de la recherche, pour qui une course de skating a autant de prix que la Venise de Véronèse, la grandeur de ces peintres-là, c'est précisément que la matière qu'ils se donnent n'a plus besoin de l'insigne dignité à laquelle nous étions soumis quand la beauté était d'abord la représentation d'une belle chose. Ce que fait Bergson ici, c'est qu'il pense non plus la beauté comme la représentation d'une belle chose, mais la beauté comme la belle représentation d'une chose, quelle qu'elle soit. Puisque cet éducateur du regard enseigne non pas à regarder ailleurs, mais à traquer la merveille dans l'enfer quotidien. Et cette traque, cette quête, prend artistiquement la forme d'une peinture qui, à la façon des peintres flamands par exemple, préfère se donner une laitière comme objet d'étude, plutôt que la crucifixion du Christ ou du Fils de Dieu. Le sujet, la nature du sujet, le sujet n'a plus besoin de la même dignité quand on sait regarder les choses de la façon que Bergson recommande.
Et d'où l'attention aussi, puisque vous faisiez référence au peintre flamand, l'attention aux détails qu'on trouve dans la peinture flamande.
France Culture, le gai savoir.
Raphaël Antoven.
Mais j'aimerais revenir sur le terme « l'art serait inutile ouais. », parce que c'est quand même assez ambivalent. On dit souvent, on enseigne souvent que justement, ce qui fait que l'art, c'est que ça n'a pas d'utilité, etc. Et il dit « l'art serait inutile ». Et vous avez parlé d'éducation, est-ce que...
Alors, il faut l'entendre de deux manières, ce mot. Vous avez raison de rester sur cette phrase en insistant bien sur son équivocité, parce que c'est la meilleure façon d'en montrer la richesse, peut-être. C'est un mot qu'on peut entendre de deux façons. Dans une explication de texte, par exemple, s'il fallait expliquer ce texte. Il faudrait pointer ces deux significations. Première signification, l'art serait inutile. Allez, sens noble. L'art est inutile. Bah oui, l'art est inutile. Évidemment, l'art nous sort du régime de l'utile. Vous n'allez pas manger la pintade qui est représentée sur une nature morte. Vous n'allez pas boire le verre d'eau qu'on a peint. Donc l'art est inutile, vous n'allez pas non plus balayer avec le cadre du tableau. Donc bien sûr, l'art est inutile, puisqu'il ne, il est précisément ce qui nous affranchit du régime de l'utile. Donc il est à tous égards l'expression de ce regard novateur. Novateur parce que neuf, novateur parce que candide. Inutile, c'est-à-dire indispensablement inutile. Et l'autre sens qu'il faut ici entendre, c'est que l'art serait inutile au sens où nous n'aurions pas besoin de l'art pour sortir du besoin. Si nous avions regardé les choses de cette façon-là, puisque en fait on aurait une vie d'illuminée. Et le genre d'illumination que l'art propose à ses amateurs les plus éclairés, c'est-à-dire non pas les plus savants, mais les plus candides, ou les plus attentifs, les plus susceptibles d'émotions, le genre de révélation que l'art promet, non pas à ses consommateurs, mais à ses amoureux, ce genre de révélation serait superflu, puisque On y serait tous. On verrait des Jocondes partout. Votre beau visage, Paola, serait immédiatement pris dans le réseau, pardonnez-moi, pré-raphaélite, des tableaux de jeunes filles qui ont les cheveux comme les vôtres. Ce serait Swann. Que fait Swann ? Swann, c'est quelqu'un qui voit une cuisinière et y voit Zephora, qui voit Bloch et se dit « Tiens, on dirait un portrait de tel sultan par Bellini ». En d'autres termes, c'est celui qui esthétise le monde, ce qui n'est pas une fuite loin du monde. C'est au contraire une façon de prendre rendez-vous avec le réel que de lui trouver un alter ego ou un équivalent pictural ou littéraire. D'ailleurs, juste une parenthèse là-dessus, rien n'est plus faux et rien n'est plus bête que de considérer qu'un individu qui passe sa vie à mettre des citations sur les situations de la vie, des citations sur des situations, ou bien des tableaux sur des visages, que cette personne-là fuit ou déserte le monde. Rien n'est plus faux que de considérer que cette personne-là, au fond, trouve un refuge dans les livres, alors qu'il faudrait s'occuper de la réalité. C'est le contraire qu'il fait. Celui qui se réfugie, c'est pas celui qui cherche des équivalents littéraires aux choses qu'il croise, parce que ce faisant, il voit le monde tel qu'on le regarde quand on n'en a pas besoin, c'est-à-dire le monde tel qu'il est. Alors que celui qui se flatte d'avoir les pieds sur terre, d'être dans la pratique, d'être dans la vie quotidienne, etc., etc., aux dépens de ces artistes ou de ces esthètes qui ont la tête en l'air, celui-là est lui dans l'oubli, dans l'amnésie quotidienne et dans l'inattention coupable, si je veux dire, il n'y a pas de jugement de valeur ici. Mais il y a un jugement de valeur si le type qui est dans la vie quotidienne fait la morale à l'esthète en lui disant « vous êtes éloigné du monde ». C'est exactement le contraire. Celui qui s'éloigne du monde, c'est celui qui réduit le monde à sa fonction, à son utilité. Celui qui s'éloigne du réel, c'est celui-là. Celui qui s'en rapproche, c'est celui qui voit dans le réel l'écho des œuvres d'art que cette même réalité a déjà inspiré à ses prédécesseurs.
Et qui se fait, est-ce qu'on pourrait utiliser ce...
Et c'est en ça, pardon, hein, mais c'est en ça que l'art est un éducateur. Oui, et un éducateur du regard, voilà.
Exactement, bah alors vous m'aidez encore plus à aller vers ma phrase. Je voulais dire, est-ce qu'on pourrait rapprocher ça très belle formule de Schopenhauer qui dit que l'art et notre regard dans la contemplation se fait l'œil lucide du monde.
Oui, exactement. L'œil lucide du monde. Et c'est une lucidité blessante. On peut ajouter à cette phrase la citation de René Char, que vous connaissez, que la lucidité, selon laquelle la lucidité, c'est, Paola,
la blessure la plus proche du soleil.
La plus rapprochée
la
du
plus
soleil.
La plus rapprochée du soleil.
Voilà, la blessure la plus rapprochée du soleil, parce qu'elle se rapproche encore. C'est la blessure la plus rapprochée du soleil. En ce sens-là, oui, bien sûr, pleinement. On est en pleine lucidité. C'est Scutener, je crois, qui dit « je vous parle d'un monde inconnu, etc. » Le nôtre. Oui, c'est notre monde qui est révélé par l'art. L'art n'est pas une fuite. L'art n'est pas une fuite. L'art, c'est une grande retrouvaille. Et c'est même le meilleur moyen d'abjurer les moyens. C'est le meilleur médiateur, c'est le meilleur média pour supprimer les médias, pour supprimer les intermédiaires et les intercesseurs. À quoi sert l'art ? De quoi l'art est-il la médiation ? Que permet-il ? L'art permet de supprimer les intermédiaires dont lui-même, en un sens, fait partie, à ce titre. En d'autres termes, l'art conduit, en un sens, vers une révélation où l'art lui-même trouve à s'abolir. Comme la philosophie, avec ses concepts, trouve à s'abolir dans les fulgurances ou dans la célérité des métaphores artistiques et des intuitions artistiques. Je vous ai dit tout à l'heure que Bergson était platonicien. Et qu'il était platonicien sans l'être. Alors, il est platonicien au sens où il surmonte les apparences. Il ne l'est pas au sens où, au-delà des apparences, c'est pas la vérité qu'il cherche, c'est la singularité. On retrouve cette ambition dans le rôle de l'art. Chez Platon, l'art est un moyen de connaissance, de la même façon que le beau est l'indice du vrai. De sorte que l'art étant soumis à autre chose que lui-même, c'est-à-dire à un procès de connaissance, l'art est appelé à s'abolir dans une dialectique, dans une science, dans une accession à la vérité. Hegel, platonicien en diable de ce point de vue, dans son esthétique, considère que l'art sera, et pour nous, chose du passé, dans sa perception historique des choses. Or, pour Bergson, c'est là que Bergson se distingue de Platon, l'art ne s'abolit pas dans la vérité, l'art s'abolit dans la singularité, et la philosophie qui s'abolit chez Hegel dans la religion s'abolit chez Bergson dans la poésie, ou dans la peinture, ou dans toute forme d'art, c'est-à-dire dans tous ces moments où une petite fée malicieuse, dont il faut qu'on parle quand même, lève le voile. Parce que je dis cette petite fée parce que c'est le démon de Bergson, la petite fée malicieuse. Tous les philosophes ont un démon, et Bergson a le sien, et c'est une petite fée.
Écoutons le passage où il parle de cette fée qui lève le voile.
Entre la nature et nous, que dis-je, entre nous et notre propre conscience, un voile s'interpose. Voile épais pour le commun des hommes, voile léger, presque transparent pour l'artiste et le poète. Quelle fée a tissé ce voile? Fût-ce par malice ou par amitié? Il fallait vivre, et la vie exige que nous appréhendions les choses dans le rapport qu'elles ont à nos besoins.
Pour rester dans l'art quand même, puisque c'est quel est l'objet de l'art, j'aimerais attirer l'attention sur ce voile qui est, dans le cas de l'artiste, presque transparent. Et rester un petit peu sur ce presque transparent, est-ce que justement cet intermédiaire, donc du voile qui persiste même dans la singularité de l'artiste, même dans le cas de l'artiste, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle le style autrement ?
Je pense que vous allez trop vite. Pour une raison simple, c'est que il faut, avant de voir dans quelle mesure on peut lever ce pan du voile, dire, même si nous l'avons déjà dit quand même, ce qu'est ce voile. Or, que dit Bergson juste avant le texte que Georges vient de lire ? Tout cela est autour de nous, tout cela est en nous, et pourtant, rien de tout cela n'est perçu par nous distinctement. Il faut comprendre cette équivalence, cette étrange équivalence bergsonienne du « tout cela est autour de nous, tout cela est en nous ». En fait, c'est simple à comprendre et c'est pas contradictoire. Qu'est-ce que ça veut dire? De dire tout cela est autour de nous, tout cela est en nous. Et il y a une ascendette. Enfin, je veux dire, il juxtapose les deux propositions indépendantes. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout cela est autour de nous. Le monde est extérieur. Le monde nous est extérieur, il est autour de nous. Bon, il est autour de nous. Ce qui veut dire au passage que son existence n'est pas contestable. Donc, Bergson ne se pose pas du tout les problèmes qui viennent à une conscience cartésienne qui, pour se saisir, qui ayant eu besoin pour se saisir elle-même de faire sécession avec le monde, peine ensuite à reconstruire la passerelle qui la conduit d'elle-même ou du sentiment de son existence jusqu'à la réalité des objets matériels.
Ou même à une conscience de phénoménologue qui continue à se poser la même question.
C'est la même chose, voilà. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est au fond, dans quelle mesure est-ce qu'une conscience peut être la conscience de quelque chose à partir du moment où, pour se constituer, elle a eu besoin de s'abstraire du réel. C'est la même chose, je veux dire, Descartes a donné le jour à la phénoménologie qui est son élève infidèle, qui voudrait faire droit à la réalité des choses, plus que le système cartésien ne le permet. Mais on a vu, quand on a parlé de Merleau-Ponty, que être phénoménologue, c'était rester cartésien, même si on brisait, on souillait, on abîmait ce sujet transparent, cartésien, reste que la structure même du sujet continue de poser des tas de problèmes quant au rapport au réel. Alors Bergson, pour lui, il n'y a pas de problème, tout cela est autour de nous, quoi. Le monde existe autour de nous, voilà, c'est une question qui ne se pose pas. Là où ça se complique chez Bergson, c'est qu'il dit tout cela est en nous. Alors là, on pourrait dire, tiens, oui, non, c'est Descartes, en fait, parce qu'il y a une conscience vorace qui a avalé le monde, qui le contient en elle-même et qui ensuite se satisferait d'en être l'unique propriétaire ou l'unique dépositaire ou l'unique réceptacle. En fait, non. Quand il dit « tout cela est en nous », il ne veut pas dire que le monde entier est en nous. Il veut dire que le monde n'existe en nous, et c'est ça qui est génial, que le monde n'existe en nous qu'au titre des impressions qui s'y déposent. Bergson, c'est un impressionniste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'extériorité, qui n'est pas contestable, qui n'est pas douteuse chez Bergson, ne subsiste en lui que sous la forme des impressions qu'elle dépose en nous. L'extériorité n'est palpable que sous la forme des impressions qu'elle dépose en nous. Et d'ailleurs, c'est l'évidence. Si vous voyez une lavande, un buisson de lavande, ou je sais pas, un bosquet de lavande, bon, vous êtes séduit par son odeur, vous en touchez la texture, vous frottez vos mains avec, vous sentez la paume de votre main qui sent délicieusement bon, tout ça est merveilleux. Mais en un sens, toutes les impressions que vous éprouvez, c'est vous qui les éprouvez. Elles passent par le filtre de votre personnalité, par vos goûts, vos dégoûts, votre subjectivité. Vous pouvez peut-être être phobique de l'odeur de la lavande, tout arrive, je veux dire. Donc, vos impressions sont en un sens médiées par votre subjectivité. Or, Bergson, penseur de l'immédiat, voudrait épurer la subjectivité, à la façon dont Hume a entrepris de le faire quand il a parlé de délicatesse et quand il parle des palais suffisamment déliés pour sentir l'ensemble des saveurs du vin. Il faudrait épurer notre subjectivité, apurer notre subjectivité de ce qu'elle contient justement de subjectif. C'est-à-dire, il est impressionniste, oui, parce qu'il s'en tient aux impressions, et il est impressionniste encore plus profondément que cela, dans la mesure où les impressions auxquelles il s'en tient, en fait, sont reçues par un individu si candide, en droit, tellement virginal, tellement enfant, au sens le plus noble du terme, pas au sens où un enfant c'est idiot, capricieux, stupide et dogmatique, mais au sens où il n'y a pas d'âge pour devenir un enfant, c'est-à-dire adopter face au monde cette candeur virginale. C'est en se faisant enfant qu'on donne à nos impressions, non pas la dignité d'un objet noble, mais la dignité d'une réalité. Tout ça est très simple à comprendre. Si vous avez une mélodie dans la tête, vous pouvez la siffler. Vous pouvez l'interpréter. Vous pouvez aussi l'entendre. On a entendu tout à l'heure la fantaisie en ré mineur. Magnifique. Cette fantaisie, on peut la siffler. On peut siffler cette petite phrase de la fantaisie qui intervient après les si répétitifs. On peut citer cette petite... On peut la siffler, on peut la siffloter, la chantonner. Mais ce faisant, évidemment, on la souille. On l'abîme de nous-mêmes, de notre propre inaptitude à restituer un son, du fait qu'on siffle faux, etc., etc. Ou pas, d'ailleurs. Mais on peut aussi l'entendre. On peut se taire et l'entendre. Et c'est à cela qu'il fait droit. C'est-à-dire qu'en fait, Bergson essaie de maintenir l'extériorité comme telle, dans l'expérience même qu'il en fait. Il ne s'agit pas d'une connaissance vorace qui connaît le réel par ingestion ou par inspection de l'esprit, mais d'une connaissance respectueuse du monde, qui essaie d'entendre les choses telles qu'elles nous sont jouées, qui essaie de les maintenir par une sorte d'assaise qui écarte ou qui élimine tout ce que l'ego, en fait, interpose entre soi-même et le monde, entre la matière et l'esprit, qui essaie de maintenir les choses dans l'état dans lequel elles sont. Chez Proust, ça prend la forme de la mémoire involontaire. C'est l'éternelle genèse des souvenirs qu'une mémoire volontaire, délibérée, constructiviste, n'a pas entrepris de reconstruire, c'est-à-dire de détruire en voulant les reconstruire. Et alors, la conséquence de cela ? Et ce texte est fantastique pour ça. La conséquence de cela, c'est que pour percevoir ainsi les choses, pour le percevoir de cette façon-là, il faut non pas être soi-même le sujet de ses perceptions, mais être sujet à ses perceptions. C'est que le mot de sujet est ambivalent, puisqu'il désigne la maîtrise comme la soumission. Or, chez Bergson, c'est à ce deuxième sens qu'il fait appel. Le sujet bergsonien est sujet dans la mesure où il est sujet à des perceptions, c'est-à-dire qu'il est lui-même, il se perçoit lui-même comme altéré par les perceptions qui sont les siennes. Et là, on retrouve l'intuition de Bergson, parce que chez Bergson, vraiment, tout se tient tout le temps. L'intuition de Bergson qui est que nous sommes profondément, fondamentalement, temporels. Il n'y a pas en nous une éternité qui résisterait au passage du temps. Non, nous sommes absolument pris par le temps, nous sommes temporels, nous sommes passages, comme dirait l'autre. Nous sommes temporels, c'est-à-dire que nous sommes altérés par ce que nous percevons, dans la mesure où nous ne faisons pas que le percevoir, nous ne sommes pas seulement le siège de nos perceptions, nous sommes nos perceptions elles-mêmes. Chez Hume, on n'est pas le même selon qu'il pleut ou qu'il fait beau, on n'est pas le même au début et à la fin de la phrase. Chez Bergson, l'homme, c'est du temps à deux pattes. Et l'homme n'est pas accidentellement temporel, il l'est profondément, parce qu'il est cette continuité qu'il a voulu sécable pour conquérir sur le monde une forme de maîtrise qui est en fait un esclavage supplémentaire. On est beaucoup plus soumis au monde quand on croit qu'on le maîtrise que quand on se laisse porter par lui. Grande leçon de Bergson, tout ça est dans ce texte.
D'accord, mais je vais en revenir.
Qu'est-ce que j'aime ce texte ? Pardonnez-moi, c'est pas pour parler de moi, ça n'a aucun intérêt, c'est juste pour dire à quel point parfois, et je voudrais le faire entendre à nos auditeurs, et vous pouvez en dire autant, Paola, d'autres textes, à quel point certains textes sont d'abord bouleversants, touchants, et surtout à quel point quand on les lit et quand on les relit, on ne les lit jamais ou on les lit toujours pour la première fois.
Mais je vous rassure, ça s'entend. Mais je voulais,
c'est vous qui le dites.
Je voulais en revenir à ma question où vous m'aviez dit que j'allais trop vite, où je vous demandais ce voile, parce qu'il y a quand même un changement entre le début et ce moment-là du texte, puisqu'au début, il dit que si, donc il parle de communication immédiate, nous serions tous artistes. Et puis lorsqu'il parle de l'artiste quelques lignes plus loin, il dit que même dans le cas de l'artiste, il permane un voile presque transparent. Alors je vous demandais si ce voile presque transparent, c'est pas justement ce qui fonde la possibilité des artistes, dans chacun leur singularité différente, donc leur style. Ce voile transparent, c'est le style.
Oui, absolument. Et je suis obligé, pour vous répondre, d'aller un peu plus loin dans le texte. Voici ce qu'il dit.
Mais de loin en loin, par distraction, la nature suscite des âmes plus détachées de la vie. Je ne parle pas de ce détachement voulu, raisonné, systématique, qui est d'œuvre de réflexion et de philosophie. Je parle d'un détachement naturel, inné à la structure du sens ou de la conscience, et qui se manifeste tout de suite par une manière virginale, en quelque sorte, de voir, d'entendre ou de penser. Si ce détachement était complet, si l'âme n'adhérait plus à l'action par aucune de ses perceptions, elle serait l'âme d'un artiste comme le monde n'en a point vu encore. Elle excellerait dans tous les arts à la fois, ou plutôt, elle les fondrait tous en un seul. Elle apercevrait toutes choses dans leur pureté originelle, aussi bien les formes, les couleurs et les sons du monde matériel que les plus subtils mouvements de la vie intérieure. Mais c'est trop demandé à la nature. Pour ceux-mêmes d'entre nous qu'elle a fait artistes, c'est accidentellement et d'un seul côté qu'elle a soulevé le voile. C'est dans une direction seulement qu'elle a oublié d'attacher la perception aux besoins. Et comme chaque direction correspond à ce que nous appelons un sens, c'est par un de ces sens et par ce sens seulement que l'artiste est ordinairement voué à l'art.
En écoutant les dernières lignes du texte qui ont été lues, on retrouve encore un lien avec Descartes, cette fois, quand il dit qu'il faut une certaine pensée de la spécialisation, qu'on ne peut pas exceller dans tous les domaines, mais par exemple, le musicien excelle, il est musicien, il ne sera pas peintre, il ne sera pas en plus cinéaste. Ou...
Et vous avez chez Bergson une genèse de cette différenciation qui s'opère à l'intérieur des tempéraments artistiques. Vous pouvez, quand vous êtes artiste, devenir Romain Gary comme vous pouvez devenir Truffaut. Vous ne vous donnez pas le même moyen d'expression. Vous pouvez être indifféremment Rilke, Rodin, enfin, vous ne vous donnez pas le même moyen d'expression. Et en fait, ce que Bergson permet de comprendre, c'est le lien qu'il y a entre celui de nos sens auquel nous choisissons de donner la priorité, c'est-à-dire celui de nos sens que nous investissons de la tâche de nous affranchir du quotidien, et l'art qui lui correspond, pour le dire de façon schématique et un peu grossière, mais je crois assez juste, enfin je ne pense pas que ce soit un contresens sur le texte de Bergson. Si vous avez une bonne oreille, vous n'allez pas devenir sculpteur, vous allez devenir musicien. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est selon l'angle perceptif que vous avez élu pour vous abstraire provisoirement ou temporellement du quotidien, c'est-à-dire pour éprouver cette continuité qui vous compose, cette temporalité qui vous constitue, cette immersion dans le monde où en vérité c'est avec vous-même que vous faites connaissance. Co-naissance, vous naissez avec le monde en vous laissant prendre par lui, adopter par lui, en acceptant d'être immergé en lui. Cette immersion, elle se fait par un sens. Et Bergson joue à merveille sur la polysémie du mot. Le sens, ce sont les cinq sens. Le sens, c'est également la signification. Et le sens, c'est la direction. Et ces trois sens de sens, ces trois significations de sens, c'est-à-dire signification, direction et perception, sont mélangées dans l'emploi que Bergson en fait quand il dit ce que nous appelons Et comme chaque direction correspond à ce que nous appelons un sens, et il écrit cette fois-ci le mot en italique, sens, direction, perception, signification, ces trois sens de sens sont combinés dans la figure d'un artiste qui, du coup, se spécialise en fonction du sens qu'il privilégie. Et c'est ce qui permet de comprendre aussi qu'aucune fée, enfin, qu'aucun voile de quotidienneté ne se lève totalement sur le monde. C'est ce moment-là qui nous permet de comprendre que, autant, franchement, la vie ne mérite pas qu'on la vive quand on est incapable d'éprouver ou de faire le genre d'expérience que Bergson décrit. Voilà. La vie n'a aucun intérêt quand on la passe à l'intérieur de ce qui n'a que de l'intérêt, c'est-à-dire que de ce qui se compte. Une vie réduite ou résumée à ce qui se compte ou à ce qui se fabrique n'a aucun intérêt. Mais à l'inverse, une vie passée hors de toute comptabilité, à l'intérieur de ce qui n'a aucun prix, c'est-à-dire à l'intérieur de ce qui échappe à toute forme de quantité, et une vie passée à constater que, en deçà de toute fabrication, il y a le processus vital qu'on appelle l'organisation, avec lequel il faut renouer et qu'il faut réussir à penser chez Bergson, bref, une vraie vie ou une vie vraiment vécue serait également invivable. Donc il faut trouver un compromis, parce que c'est dans le quotidien, c'est l'écrin du quotidien. Le quotidien, c'est le charbon dont on tire le diamant, mais c'est à l'intérieur du quotidien qu'il faut bien vivre, de la même façon que c'est dans la cité qu'il faut appliquer ces conceptions du politique. En fait, ce que critique Bergson ici, chez ceux qui, vous savez, les oblatifs qui voudraient vivre chaque instant comme si c'était un instant parfait, un instant absolu, etc., ceux-là, en politique, ce sont les dictateurs. Ce sont ceux qui importent leur goût de l'absolu dans un monde qui, parce qu'il est mêlé de matière, souillé de hasard, ne relève pas de la raison pure et ne relève pas des valeurs immuables. Donc, il fait la critique de cela. On retrouve cet élément chez Camus, par exemple, pour qui la condition de la générosité, c'est l'égoïsme. Il y a une forme de compromis à passer. Il y a une forme de compromis à passer avec le réel. Il y a vraiment éthique de conviction, éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est l'expérience inouïe qu'on peut faire du fait que les mêmes choses qu'on voit tous les jours, une petite inflexion du regard, une petite fêlure à la surface un instant altérée du regard, nous donne le sentiment qu'on les voit pour la première fois. Donc ça, c'est super. C'est super, d'ailleurs, au sens étymologique, c'est au-dessus. C'est au-dessus de ce qu'on perçoit d'habitude. Donc c'est une liberté. En fait, on a ce qu'on voit tous les jours, on a la liberté de le voir pour la première fois tout le temps. Donc c'est l'art de voir pour la première fois ce qu'on a l'habitude de voir, où se trouve la philosophie elle-même. Donc ça, c'est une possibilité. Mais l'abandon à cette possibilité est une facilité comparable à l'abandon dans l'amnésie quotidienne, au fond. Le côté « moi, je suis un artiste et je vis dépoitraillé et je ne transige avec rien », ben, que voulez-vous ? Aux yeux de Bergson, on n'est pas moins bête quand on vit de cette façon-là que quand on vit dans l'amnésie quotidienne. On n'est pas plus intéressant. L'artiste absolu, celui qui fait le don de lui-même, n'est pas plus intéressant parce qu'il tourne le dos à la réalité, cette fois-ci vue comme quotidienne, que celui qui, vivant au quotidien, évolue, vit, meurt, naît, éprouve et pense à l'intérieur d'un monde uniquement de quantités et de chiffres. Les deux se sont oublier le premier dans l'inutile et le second dans l'utile. Mais dans les deux cas, c'est une perte et un oubli de soi fatal.
France Culture, le gai savoir.
Raphaël Antoven.
Alors, on est parti un peu loin donc avec cette question de fée qui lève un seul pan du voile, etc.
Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment raconté pourquoi ou comment la fée posait un voile sur nos existences. On est allé d'emblée au fait qu'elle levait un pan du voile pour les artistes et les natures les plus détachées. Cela dit, si on n'avait pas brûlé les étapes, on ne serait pas arrivé à la fin du texte. Donc c'est toujours
c'est
ça de donner.
Voilà. Mais pour en revenir à un petit peu le milieu du texte où il parle du langage, ça pose une question tout de même, parce que, puisque c'est un texte sur l'art, il parle de langage, comment ne pas penser à la poésie ? Et comment fait alors le poète pour se débarrasser de ces étiquettes linguistiques que nous accolons dans la vie quotidienne et qui nous empêchent d'ailleurs de dire « je t'aime » à quelqu'un, ou qui nous contient et on se force à ne pas dire pour pas passer à côté des mille nuances fugitives, comme il dit, comme Bergson le dit, de
oui,
nos sentiments.
Qui font de ce sentiment quelque chose d'absolument nôtre. Pour tout dire, je relis la phrase. Nous ne voyons pas les choses mêmes, nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles, ce qui est une vérité profonde. On croit voir les gens, on voit l'idée qu'on en a. Et ça, c'est une expérience qu'on peut faire au quotidien. On croit voir les gens, on voit l'idée qu'on en a. Je ne vous parle même pas en politique, c'est-à-dire où toute parole est immédiatement entendue par l'adversaire auquel cette parole s'adresse comme l'expression d'une doctrine qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais crédit à celui qui parle, et en particulier en politique, mais dans la vie quotidienne, on ne fait jamais crédit à celui qui parle de parler au nom de ce qu'il voit, mais on le soupçonne de parler au nom de ce qu'il est. Et de cette façon, nous ne voyons pas les choses mêmes, nous nous bornons à lire des étiquettes collées sur elles. Voilà, le monde est beaucoup plus intéressant que l'idée qu'on s'en fait, voilà, que l'idée qu'on en a. Chez Proust, ça prend la forme du remplacement de l'imagination, qui dépose des étiquettes sur le monde avant qu'on le rencontre, par la sensibilité qui fait que, quand on croise le monde, ce monde qui nous paraît désenchanté, lugubre, sinistre et pas à la hauteur de l'imaginaire au début, finit par nous sembler intéressant en lui-même parce qu'on a cessé de poser des étiquettes sur lui et on le regarde tel qu'il est, et non plus tel qu'on l'a rêvé avant. Or, Bergson prolonge cette réflexion en expliquant que cette tendance issue du besoin, le besoin, c'est ce qui nous fait poser des étiquettes sur le monde. Verre d'eau égale se désaltérer, donc c'est une étiquette. Donc avant d'y voir une nature morte, il faut ne plus avoir soif, si vous voulez. Donc, cette tendance, dit Bergson, s'est encore accentuée sous l'influence du langage. Car les mots, à l'exception des noms propres, ce qui se discute complètement, le Tartuffe, c'est un nom propre qui aujourd'hui désigne un genre. Les mots, à l'exception des noms propres, dit-il, désignent des genres. Le mot qui ne note de la chose que sa fonction la plus commune et son aspect banal s'insinue entre elle et nous et en masquerait la forme à nos yeux si cette forme ne se dissimulait déjà derrière les besoins qui ont créé le mot lui-même. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Quand on dit « je t'aime », on dit un truc que tout le monde a dit. On dit un truc que tout le monde a dit et on court le risque en le disant de se déguiser en carte postale. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on choisit un soleil couchant pour dire à la femme qu'on aime « je t'aime » ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un décor idoine ? On a besoin de carte postale. On a besoin d'un lieu qui soit le bon écrin de cela. C'est le risque que l'on court de se déguiser en soi-même. C'est ça, l'étiquette. C'est-à-dire qu'au fond, on intègre, on incorpore soi-même l'étiquette qu'on s'est accolée soi-même. C'est-à-dire que, et ça c'est l'influence du langage. Et en fait Bergson reprend une analyse de Nietzsche. Bergson, ce grand platonicien, reprend une analyse de Nietzsche sur le langage. Soit il la reprend, soit il la prolonge sans le savoir. Mais bon, je ne peux pas penser qu'il n'ait pas lu les textes de Nietzsche sur le langage, notamment dans Aurore. Où Nietzsche explique que le langage vitrifie le réel, que le langage fige le réel, immobilise le réel. À la fin de Par-delà bien et mal, hélas mes pensées, qu'êtes-vous devenue maintenant que vous voilà écrite et peinte ? Certaines d'entre vous sont ennuyeuses, elles sont en passe de devenir des vérités, c'est épouvantable.
Vous dites Nietzsche, mais dans Platon aussi, hein, on retrouve ça, Socrate fait la même...
Le mythe de Phèdre, enfin le mythe de Teute à la fin du Phèdre, où Teute explique à Pharaon qu'il a mis au point un système extraordinaire pour lui permettre de garder la mémoire de toute chose qu'on appelle l'écriture, et Pharaon lui dit « ça ne m'intéresse pas ton système » parce que, en fait, ce n'est pas la mémoire, c'est l'oubli que ça produit, puisque le fait d'écrire est un facteur d'oubli, non pas un facteur de souvenir. C'est la différence que Platon fait d'emblée entre la mémoire vive et le disque dur. Le disque dur, c'est la somme des écrits. La mémoire vive, c'est la mémoire dont on a besoin, à laquelle Bergson fait appel lui-même, dont on a besoin dans une discussion, qu'on réinvestit en permanence à chaque phrase qu'on prononce, en particulier quand on fait une émission de philo. Donc, c'est la différence qu'il fait entre la mémoire vive et la mémoire endormie, la mémoire stable, la mémoire consistante, la mémoire en data, la mémoire en données. La mémoire vive est celle que le langage recouvre, justement, parce que le langage... Eh bien, simplifie le monde en le décrivant. Ce que je veux dire ici, c'est que Bergson s'inscrit ici dans une tradition très intéressante et à mon avis extrêmement riche, qui consiste à considérer que c'est le réel ne précède pas le langage, c'est le langage qui précède le réel. Et, paradoxe des paradoxes, une telle vision des choses, dont Nietzsche est le meilleur porte-parole. Nietzsche est celui qui dit « nous croirons en Dieu tant que nous croirons en la grammaire ». Parce que la grammaire, avec cette structure sujet-verbe-complément, ou en ce qui le concerne sujet-complément-verbe, peu importe, la structure sujet-verbe-complément reconduit le rapport imaginé ou rêvé de Dieu à sa création. Dieu est dans un rapport transitif à sa création. En gros, le monde est le complément d'objet direct du verbe divin, de la parole divine. De la même manière que dans une phrase, il y a sujet, verbe, COD. Et donc Nietzsche explique que nous croirons en Dieu tant que nous croirons en la grammaire. C'est la grammaire qui produit des esprits théologiques. Dieu est né d'une disposition du langage. Benveniste, dans le droit fil de ce que dit Nietzsche, explique que ce qu'Aristote appelle les 10 genres les plus généraux de l'être, les 10 catégories, sont en réalité 10 genres, non pas de l'être, mais du grec. Et Aristote n'aurait pas pensé l'être comme il l'a pensé s'il n'était pas grec lui-même, s'il n'avait pas une langue qui le porte à penser comme il pense. Et le grand paradoxe, chez ces déconstructeurs de la vérité, chez ces gens qui disent, parce qu'en général, on croit qu'il y a le réel, et puis ensuite il y a les mots. Eh bien en fait non, ces gens-là disent, il y a les mots, et après il y a le réel tel que ces mots le recouvrent, plus ou moins parfaitement, plus ou moins imparfaitement. Ceux qui le disent reconduisent la première phrase de la Bible. Je veux dire, l'idée en tout cas, le début de la Bible, l'idée qu'au commencement était le Verbe. Au commencement est le Verbe. Donc il y a paradoxalement chez Nietzsche, chez Bergson, chez Benveniste, chez tous ces gens qui considèrent que la langue est première par rapport au réel, donc qui semblent sacrifier la substance aux mots employés pour la dire, et qui semblent considérer que la substance est elle-même tributaire des moyens qu'on se donne pour la penser, et qu'au fond nous sommes séparés du monde par les moyens que nous nous donnons de le connaître, ceux qui pensent cela ne font que reconduire l'intuition théologique selon laquelle au commencement était le Verbe. Merci Paola, merci à tous, on vous aime tant. François Connac à la réalisation, Alice Ramon bien sûr, Georges Claes notre lecteur et aujourd'hui Valérie Lavalard à la technique. C'est la fin de l'émission pour cette semaine. Vous aurez noté, auditeurs attentifs à qui rien n'échappe, que cette émission s'inscrit dans le week-end que France Culture consacre au rire. La façon que le Gai Savoir a trouvé d'être dans la note est de parler de ce texte extrait du Rire de Bergson, texte qui en lui-même n'a rien de drôle, mais après tout, qui vous dit que le rire, c'est drôle ? On se retrouve dimanche prochain pour parler de la troisième partie de l'éthique de Spinoza, rien de moins. En fait, de l'avant-propos de cette troisième partie qui fonctionne comme une immense et somptueuse réponse au traité cartésien des passions de l'âme. Si vous croyez que l'esprit gouverne le corps ou que le corps gouverne l'esprit, cette émission n'est pas pour vous. Ces émissions, vous pouvez les retrouver sur Internet à la page du Gai Savoir ou sur Facebook, où vous attendent téléchargements, écoutes en ligne et bibliographies. Cette émission est également, comme toutes les autres, en partenariat avec Philosophie Magazine, un amour de journal qui, ce mois-ci, vous parle notamment du courage selon Aristote, de mémoire et d'amitié telles que l'entendent Paul Venn et Dominique Blanc. Bref, de belles choses, de bien belles choses dans Philomag, comme à chaque numéro disponible dans tous les kiosques, qui de cette façon deviennent un peu des librairies.
Je t'aime. Oui, je t'aime.
Moi non plus.
Oh, mon amour.
L'amour physique est sans issue. Je vais...
Retrouvez également les nouveaux chemins de la connaissance, bien sûr, qui, si nos informations sont les bonnes à l'heure où nous enregistrons cette émission, toute la semaine vous parle d'Ulysse, le héros nostalgique par excellence, les nouveaux chemins de la connaissance, et tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h à 11h.
Je me retiens.
Non, maintenant, viens.
Oh.
17h sur France Culture. Dans un instant, l'atelier du pouvoir, Thomas Vider, Vincent Martini.